nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des carnets de Comaguerre sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie de Sidi.
Bonsoir.
Bonsoir Sidi, merci. Fidèle animateur de nos folles soirées du mercredi soir depuis plusieurs décennies, j'allais dire. Et ce soir, c'est une occasion très particulière puisque ça va être l'occasion d'un double hommage, d'une double célébration de deux personnages qui ont des liens particuliers puisque l'un a été un grand ministre des débuts de la 4e République qui s'appelle Ambroise Croizat et l'autre a été son biographe. Ils ne se sont pas croisés, puisqu'au fond, quand Ambroise Croizat est décédé, Michel Etiévant, dont on va parler, avait, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, ils n'avaient pas de point. Enfin, ils ne se sont pas vus. Je pense qu'ils ne se sont pas vus. Simplement, ils avaient une double attache politique et syndicale. Ils ont tous les deux été des militants syndicaux à la CGT. Ils ont tous les deux été des membres militants du Parti communiste. L'un a été ministre, on va y revenir, et l'autre a été animateur d'un certain nombre de groupes de réflexion. Il a rédigé des articles, puisqu'il était plutôt homme de plume, mais en même temps, homme de plume qui n'a jamais été simplement le monsieur qui vit de biographie de publication. Il n'a d'ailleurs pas publié que des biographies, il a publié d'autres ouvrages, mais il est toujours resté un militant CGT et un militant du Parti communiste. Et au fond, le point commun qu'ils avaient était un point commun géographique. C'est ça qui les a rassemblés indirectement, puisqu'ils étaient tous les deux natifs de cette haute vallée de la Savoie qui s'appelle la Tarentaise, qui est donc la haute vallée de l'Isère, qui, à l'époque... C'est plus tout à fait la même chose maintenant. Puis à l'époque, à la fois d'Ambroise Croizat et de son père, alors je cite le père parce que Ambroise Croizat a été le fils d'un militant CGT des usines qui était la caractéristique de cette vallée de la Tarentaise dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale. On y faisait de l'électrochimie, de l'électrométallurgie avec l'électricité produite par les chutes d'eau et les barrages qui avaient été construits dans cette région-là. Et le père d'Ambroise Croizat était un militant très actif de la CGT, au point qu'il a mené un certain nombre de grèves dans ces communes de la vallée de la Tarentaise qui lui ont valu d'être d'abord mis à la porte, licencié, car on ne faisait pas de cadeaux à cette époque-là, et puis d'être mis sur une espèce de liste noire, c'est-à-dire qu'aucune usine ne voulait l'embaucher après. Et donc Ambroise Croizat, le petit Ambroise Croizat, naît dans cette atmosphère-là. Et il naît parce qu'il sait ce que c'est que la lutte ouvrière, il sait ce que c'est que le militantisme syndical et politique, il en sait le coût, puisqu'il a vu ça dans la vie familiale, et en même temps, ça ne va pas du tout le ralentir dans son activité militante, ni syndicale, ni politique, puisqu'il sera un grand dirigeant de la Fédération des métallurgistes de la CGT, et puis qu'il sera député communiste à partir du Front populaire, ce qui lui vaudra de passer la Deuxième Guerre mondiale en prison, puisque vous savez que la plupart des députés communistes ont été emprisonnés, donc lui, il est emprisonné à la sortie de l'Assemblée nationale, un beau jour, et il va passer une partie de son temps en prison en France, et puis le reste en Algérie. C'est ça Ambroise Croizat. Et il va faire, et c'est sur quoi on va s'apesantir ce soir, il va faire un travail titanesque, j'allais dire, et j'ose le dire, au moment où il sera nommé ministre par le général de Gaulle dans un des premiers gouvernements de la 4e République, et où il sera en charge du portefeuille de la santé et du travail. Le portefeuille du travail, ça va lui donner l'occasion, en l'espace d'en gros 18 mois, puisque là on a un créneau historique extrêmement court, puisque entre le moment où les quatre ministres communistes arrivent au gouvernement et le moment où ils sont mis à la porte sous pression des États-Unis du gouvernement, donc de la 4e République, il s'est passé en gros 18 mois. Et pendant ces 18 mois, Ambroise Croizat, les autres ministres communistes ont travaillé aussi, vous inquiétez pas, mais lui, il a abattu un travail considérable dont les traces sont encore extrêmement fortes aujourd'hui dans la société française. Alors, je veux parler au centre, la sécurité sociale avec ses quatre branches, la maladie, la vieillesse, donc la retraite, les accidents du travail et les allocations familiales. On lui doit les conventions collectives, le principe même des conventions collectives. On lui doit la médecine du travail. On lui doit les conventions collectives, c'est-à-dire une œuvre vraiment immense. Et cette œuvre, et on va en reparler dans l'interview que vous allez écouter de Michel Etiévan, cette œuvre a été d'abord abîmée, puisque la sécurité sociale d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était au moment où son fondateur et la 4e République l'a mise en place. Et puis, d'autre part, il y a une pression systématique de la droite, de la bourgeoisie qui est revenue au pouvoir après cet épisode où elle n'avait pas les mains très très propres. Je veux parler de l'époque de la collaboration. Je rappelle quand même, il faut le dire, que l'industrie française pendant l'occupation, sous Pétain, pendant l'État français, n'est pas détruite ou assez peu détruite par les bombardements allemands, puisque de fait il y a un armistice, et l'industrie française va travailler pendant 4 ans, presque 5, continuellement pour l'armée allemande. Et donc les industriels français ont effectivement travaillé pour l'ennemi. Et c'est ça que les communistes ont refusé, c'est ça que De Gaulle et ceux de la droite qui l'entouraient, ils n'étaient pas très très nombreux, ont refusé aussi, c'est-à-dire le refus et le rejet de cette soumission à la dictature de l'occupant. Ça reste une donnée forte. Mais après ce passage historique très particulier, les droites et les bourgeoisies d'affaires qui ont oublié leur collaboration avec l'ennemi nazi vont se remettre à la tête des affaires sous la suite de la 4e République, encore plus ensuite, et vont passer leur temps, j'allais dire, à essayer de détricoter l'édifice construit par Ambroise Croizat et son équipe. Détricoté, c'est encore en cours, tout n'a pas été cassé, il en reste. Le dernier pilier de la construction d'Ambroise Croizat, c'est le système des retraites par répartition. Et vous savez que c'est ça l'objectif des équipes politiques actuelles, non seulement Macron, mais ceux d'avant. Et donc, c'est là que se situe le tournant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce pilier-là disparaît, s'effondre, on met à la place ceux qui, depuis des années, la bave aux lèvres, j'avais dit, attendent de croquer le morceau de la sécurité sociale, les assureurs et les fonds de pension. C'est-à-dire le privé prend tout, parce qu'il y a là un énorme gâteau. Songez, ça vous donne l'ampleur du problème, que le budget de la sécurité sociale aujourd'hui, annuel, est supérieur au budget de l'État français. Et donc les appétits sont énormes. C'est ce à quoi nous devons nous opposer, car il faut sauver ce monument en péril qui est le monument de la sécurité sociale auquel on peut coller l'étiquette, il la mérite, d'Ambroise Croizat. Pourquoi on va parler d'abord de Michel Etiévan et pourquoi on va entendre Michel Etiévan? Parce que j'avais eu l'occasion d'interviewer Michel Etiévan au moment où il avait publié une remarquable biographie d'Ambroise Croizat. C'était dans les années 2014 à peu près. On avait communiqué entre nous, j'avais lu la biographie, on avait communiqué entre nous et puis on avait convenu d'une émission qui finalement s'est faite par téléphone, vous allez l'entendre, mais dans laquelle on entend très bien que ce biographe n'est pas un biographe comme les autres, c'est-à-dire il partage les mêmes convictions politiques que le ministre, les mêmes convictions et le même engagement syndical, mais il va redonner à voir ce ministre que les différents gouvernements de la 4e puis de la 5e République voulaient effacer de l'histoire. Ils voulaient effacer à la fois l'homme et son œuvre. Alors l'œuvre, on sait que ça continue. Il y a eu sans arrêt des réformes, entre guillemets, de la sécurité sociale tendant à la vider de son sens initial. C'est pas fini puisqu'il reste encore le monument de la retraite par répartition. Mais il y a eu toute une période où on ne parlait pas d'Ambroise Croizat. Et Michel Etiévan, à force d'écrire et de faire le militant, c'est-à-dire il avait cette biographie, puis il allait la montrer dans des auditoires, dans des réunions syndicales, il faisait des articles dans la presse, etc. Et il a réussi à ce qu'on reparle d'Ambroise Croizat, que la bourgeoisie voulait éliminer de l'histoire de France. C'est ça qui est très très important. Et c'est son rôle historique que je salue, parce que autrement, tout le monde aurait oublié Ambroise Croizat. Seulement, la population à l'époque, elle ne l'avait pas oublié, puisque au moment du décès d'Ambroise Croizat, qui meurt très jeune, il a un cancer du poumon, il a 50 ans, il y a 1 million de personnes qui suivent le cortège funèbre. Imaginez aujourd'hui quel homme politique français aurait droit à 1 million de personnes qui suivraient son cortège funèbre. personne, on ne voit personne. Donc c'est pour ça que la tentative de l'effacer de l'histoire de France était très très forte. Imaginez, c'est tous ces bourgeois, tous ces industriels qui ne voulaient pas de la sécurité sociale, voyaient que le peuple était derrière lui. Et donc il fallait gommer l'homme en même temps qu'essayer de détruire ce à quoi ils se sont employés, l'œuvre. Donc ce qu'on va écouter, c'est cette conversation téléphonique que j'ai eue avec Michel Etiévan, qui est mort le mois dernier, soudainement d'ailleurs, puisque dans les jours précédents son décès, il continuait à circuler dans toute la France pour parler d'Ambroise Croizat, d'un autre ministre communiste de l'époque, Marcel Paul, dont il avait aussi fait une biographie. Marcel Paul est en particulier, donc en tant que ministre de la production industrielle, l'auteur d'une biographie donc, de Marcel Paul, qui était l'auteur du statut d'EDF, qui est aussi un des piliers de la France de l'immédiate après-guerre. Et on va l'écouter donc raconter comment il a vécu sa rencontre indirecte avec Ambroise Croizat, mais cette familiarité avec la personne et la famille qui vivait au même endroit que lui a vécu, donc cette vallée de la Tarentaise. Et il va vous laisser entendre, mais là je ne préjuge pas de votre écoute, il va nous laisser entendre que c'est un message plein d'espoir et nous en avons tous besoin. Donc je laisse la parole à Michel Etiévan. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour parler d'un personnage de l'histoire de France, mais qui n'est pas seulement un personnage de l'histoire de France, mais surtout un personnage de l'histoire sociale de la France, pour parler d'un ministre du Travail qui n'était pas un ministre du Travail comme les autres, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il n'avait pas fait les grandes écoles avant d'être nommé ministre du Travail comme il aurait été ministre de l'Agriculture. Non, c'était l'homme de la situation et il comptait parmi les quatre ministres, il n'y en avait que quatre puisque c'était un gouvernement d'union nationale mis en place par le général de Gaulle tout de suite après la libération. Il s'agit, pour ceux qui connaissent cette période-là de l'histoire de France, d'Ambroise Croizat, donc ministre du Travail du gouvernement d'Union nationale, qui était accompagné donc de trois autres ministres communistes. Et l'occasion de parler de lui nous a été fournie donc par une biographie qui a été rédigée par le personnage, l'auteur que nous allons avoir en ligne au téléphone, qui est en même temps quelqu'un qui a un parcours pas tout à fait semblable, mais qui est un régional, c'est-à-dire un voisin qui a connu la famille, qui a été élevé donc dans cette région de la Haute-Savoie dont Ambroise Croizat était originaire et qui va nous en parler. Donc il s'agit de Michel Etiévan, qu'on va entendre, qui a donc publié un livre d'abord de très grande qualité pour la recherche historique et puis très joliment illustré, une très belle iconographie où on voit ce personnage hors du commun, cet ouvrier qui devient ministre, ce militant syndical qui devient ministre et qui en devenant ministre n'oublie pas et n'oublie jamais d'où il vient. Et ça, c'est le plus important parce que vous savez que dans les parcours, on peut avoir une origine de classe, comme on dit, qui vous amène à vous intéresser au mouvement ouvrier et à la condition des travailleurs. Et il y en a qui ont cette origine de classe, mais ont tendance à l'oublier. Ambroise Croizat ne l'a, lui, jamais oublié, son origine de classe. Et Michel Etiévan nous racontera comment, même quand il était ministre, il allait, avant de rédiger un texte, voir des copains à la base pour savoir si c'était bien ça qu'il fallait faire. Dans les limites du genre, puisque on était dans l'histoire que on avait affaire à un gouvernement d'union nationale qui était dirigé par De Gaulle, qui comptait des ministres, appelons-les bourgeois pour faire simple, donc la tâche n'était pas simple, mais elle était très largement réussie. Et Michel Etiévant n'évitera pas de nous souligner que tout le travail énorme de législation donc fait par Ambroise Croizat et son équipe, et le socle de la législation sociale actuelle, socle qui est grignoté petit à petit, comme par le supplice de la goutte d'eau, par les droites au pouvoir depuis qu'elles ont la totalité du pouvoir, même si l'alternance fait croire que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc on va avoir Michel Etiévant en ligne, qui va nous parler de Ambroise Croizat ou l'invention sociale, titre de son livre. Michel Etiévant ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Michel, très content de t'avoir en ligne. On ne se connaît pas, mais je pense qu'on aura l'occasion de se connaître, puisque avant d'écrire ce livre-là, tu as publié un livre qui touche à l'histoire sociale de Marseille. Alors on va un petit peu parler, faire du régionalisme. Je sais que tu es l'auteur d'un travail sur une partie de la classe ouvrière et d'une activité économique caractéristique de Marseille.
Moi j'avais travaillé sur, c'est dans les années 84, 90, sur l'ESTAC à Marseille.
Oui.
Et c'était avec une association qui s'appelait À la rencontre du livre, d'essayer de participer, de faire participer la population à sa mémoire. C'est-à-dire le but, c'était d'en faire, de ces gens, qui étaient des anonymes pour la plupart, des porteurs de mémoire. Et notamment sur tous les aspects de l'ESTAC. Alors il y avait évidemment, on a rencontré des pêcheurs. Je me souviens d'un vieux pêcheur extraordinaire qui s'appelait Carême, je ne sais pas s'il est encore parmi nous. On a travaillé aussi beaucoup avec des femmes qui travaillaient dans les tuileries de l'Estac.
Bien sûr.
Puis avec tous ceux qui ont travaillé à Usine Kuhlmann, l'ancien bâtiment, je crois qu'il a disparu aujourd'hui, qui était au fond de l'Estac, quoi. Et ainsi qu'avec tous les jeunes. C'était à la fois un travail sur la mémoire, sur le présent et l'avenir de ce petit village-là. Et je me souviens que d'ailleurs, j'étais resté longtemps dans ce qu'on appelait les bidonvilles.
Oui, tout à fait.
Il y avait encore des bidonvilles. Il y avait même un bidonville à l'entrée de l'Estac.
Voilà, l'île Occieuse, oui, tout à fait.
Et donc, on avait travaillé beaucoup sur le terrain, en relation directe avec les gens, pour essayer de tisser du lien, quoi, avec cette population souvent défavorisée.
Voilà. Et qui était aussi donc à une grande concentration ouvrière à cette époque-là. Donc l'ESTAC, pour les auditeurs, ce n'est pas simplement les tableaux que vous voyez dans les expositions dans Marseille, capitale de la culture, qui soient de Dufy ou de Cézanne ou d'autres. C'est un creuset ouvrier à une époque où, en plus, la quantité d'ouvriers immigrés, qu'ils soient espagnols, italiens, fuyant le fascisme et tout, est une caractéristique de ce secteur-là, de la classe ouvrière et de ce quartier-là de Marseille.
Un quartier très attachant, je me souviens. D'ailleurs, attachant comme l'Estac. L'Estac, ça vient de là, d'ailleurs, l'attache. Hein.
Bien sûr.
On a essayé de répertorier un peu toutes les migrations dont tu parlais, là, italiennes, espagnoles. Et au fond, les gens avec qui on a travaillé, c'était essentiellement des gens venus de loin, quoi. Des errants s'accrochant à l'Estac pour pouvoir vivre différemment, quoi. Et qui ont transposé, là, leur racine en quête de pain et dignité, surtout.
Tout à fait. Et donc, voilà, ce qui nous amène au sujet de ce soir, qui est plus vaste, mais au fond, parler de Marseille, cette histoire ouvrière de Marseille, qui a été pas mal mise en scène dans les films de Guédiguian, parce que c'est toujours autour du même quartier que ça se passe. Hein. Mais on va aborder une histoire beaucoup plus large. Alors, pour toi, elle est d'abord une histoire régionale, puisque Croizat, je le disais, la famille Croizat était de tes voisins. Alors, explique-nous, commençons par là.
D'abord, c'est surtout une histoire d'enfance. Moi, je suis né dans la maison même où est né Ambroise Croizat. Donc très tôt, ma mère était femme de ménage, ouvrière. Mon père était mort à l'usine. Il y avait 8 enfants à la maison. J'ai pris très tôt conscience de ce que pouvait être le personnage qui nous avait précédé, notamment dans tout ce que les anciens me racontaient sur lui. Moi, je voyais, quand ils m'en parlaient, leurs yeux qui pétillaient. Il y avait une admiration absolument extraordinaire, parce que cet homme, il avait su amener dans le quartier, à cette population totalement défavorisée, et à la France de l'époque en général, la dignité. Et cette dignité, moi, je la voyais concrètement dans la chair même des gens. Il faut se rappeler que l'avant-Croizat, c'est 1939, 7 millions de salariés, 6 millions n'ont aucune protection sociale. Tu vois, ça veut dire que quand on est malade, on fait comment ? Ça veut dire quand on vit dans la terreur de l'hospitalisation, dans la terreur de la maladie. Pareil pour la retraite, 7 millions de salariés, 6 millions n'ont aucune retraite. On pousse donc l'activité jusqu'au bout, la retraite à l'époque, ça s'appelle le cimetière. Eh bien, il faut imaginer un homme comme ça, qui arrive au pouvoir, avec De Gaulle, avec toute son équipe, et qui dit à l'Assemblée nationale, le premier jour, désormais, nous allons mettre fin aux angoisses du lendemain. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. La vie ne sera plus une charge ou un calvaire. Et puis il termine par cette phrase, la retraite ne sera plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et bien effectivement, ça change complètement l'avenir des gens. Et moi, cet avenir des gens, je les vois encore, je les ai encore dans ma tête parce qu'ils m'entouraient, hein, dans ce quartier ouvrier de Notre-Dame de Briançon, où cet enfant d'ouvrier était né. Il faut se rappeler qu'il est un fils de manœuvre, ouais. Né en 1901, dans un quartier où, au bord de l'usine, où on vivait, où on travaillait 12 heures par jour pour 8 sous de l'heure. Et très tôt, le père a pris conscience de ça et s'est aperçu que si on voulait changer les choses, il fallait se bouger. Et ce Antoine Croizat, père d'Ambroise, a été à l'origine de la première grande grève savoyarde pour la protection sociale, ouais. En 1900.
En 1900.
Oui, 1906.
Voilà. Donc voilà, rappelle-nous, parce qu'on n'est pas de la région, de quel type d'industrie il s'agissait principalement.
Alors, on fabriquait du carbure de calcium, ouais. Un produit qui sert essentiellement à l'époque à l'éclairage. Tu sais, avec le carbure, on peut, en mettant de l'eau dessus, faire sortir un gaz qu'on appelle l'acétylène.
L'acétylène.
Une flamme pour que ça flambe, quoi. Et ces gens, ils travaillaient comme ça, sans aucune protection, sans casque, devant des fours à 1500 degrés, où fusionnait ce carbure. Les accidents étaient très nombreux, il n'y avait pas de mutuelle, aucune protection sociale. On travaillait tous les jours. Et il faut rappeler que le congé hebdomadaire du dimanche, c'est seulement juillet 1906. Et qu'il faudra beaucoup de choses pour l'appliquer, parce que la plupart des patrons ne l'appliquaient pas, quoi. Donc très vite, le père d'Ambroise prend conscience de la nécessité de se battre. Et là, il crée un syndicat, et ce syndicat, c'est tout à la fois un outil de lutte, mais aussi une caisse de secours. Au fond, les prémices de la sécurité sociale en 1906, que le fils Ambroise va mettre au point en 1945. C'est ce qui est formidable dans cette famille, quoi. Hein. Il y a une prise de relais du fils.
Voilà, qui va étendre au niveau national ce que le père avait expérimenté au niveau local, c'est ça ?
En l'affinant, en la modernisant, en faisant cet outil fabuleux qui nous est envié dans le monde entier aujourd'hui, quoi, qui s'appelle la sécurité sociale.
La sécurité sociale. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Donc Ambroise, donc dans cette famille nombreuse, d'après ce que j'ai compris,
oui.
Observe le père, et le père n'a pas que... il est courageux, il mène des luttes, mais il va en pâtir aussi.
Il va en pâtir, oui. Parce que très tôt, il va être muté, après cette fameuse grève qu'il a lancée et qui a réussi. Les patrons ne veulent pas le reprendre, mais comme la grève a été importante, ils sont obligés de le reprendre dans une autre usine du groupe. Et la famille va quitter Notre-Dame de Briançon pour aller à Ugine, l'usine où Antoine Croizat est muté. Et là, il était à peine arrivé que deux jours après, il relance une nouvelle grève.
Oui.
Elle échoue, il est ramené par les oreilles à la gare et on lui demande d'aller espérer la révolution ailleurs. C'est là que la famille part vers Lyon. Mmh. Et en 1914... on retrouve cette famille, Ambroise a 13 ans, le père Antoine Croizat part à la guerre, le père Ambroise, qui est l'aîné, doit prendre en charge la famille et il se met au travail. Il devient un petit ajusteur outilleur, il adhère à la CGT et rapidement il devient un militant important, régional, dans les années 1918. Il adhère à la SFIO et en 1920, il va passer le pas et faire partie de ceux qui vont créer le PCF au congrès de Tours. Il a alors à peine 20 ans.
Attends. Donc il a échappé à la guerre en raison de son jeune âge, voilà. Mais il n'a pas perdu son temps.
Non. Et là, il va être, d'après les témoins de l'époque, un orateur assez extraordinaire, chassé un peu par, par tous les patrons mis sur des listes noires. Et il va devoir se cacher souvent, hein, ah oui. Un militant clandestin parfois. Et après cette période où il adhère à la jeunesse communiste en 1920, il devient ce qu'on appelle un jeune communiste. Et à l'époque, un jeune communiste, c'est quelqu'un qui se bat sur deux thèmes.
Oui.
Sur l'antimilitarisme et l'anticolonialisme. Là, il rencontre quelqu'un que vous devez connaître sur Marseille, qui s'appelle François Billou.
Et oui.
Et avec François Billou, ils sont tous les deux responsables de la 17e entente de la jeunesse communiste de la région Rhône-Alpes. Et quel est leur travail? Eh bien, c'est de partir sur les routes pour pousser les soldats à la désertion et ne pas aller vers les grandes guerres coloniales de l'époque, le RIF.
Et voilà, en particulier.
Et ils sont sur les quais de Marseille, déjà dans les années 21, 22, 23. Et là, ils poussent les soldats à la désertion. Ils font tout un travail de propagande, d'écoute, ils suscitent des réunions qui aboutissent souvent sur la désertion des gars qui ne veulent plus aller après avoir entendu Croizat et Billou dans les guerres coloniales. Quoi.
Voilà. Alors ça, c'est un domaine qu'on oublie assez largement dans cette période-là, mais la France, effectivement, tu viens de le dire, s'engage, oui. La France coloniale s'engage dans la guerre du Rif, donc qui est une guerre qui se passe dans le nord du Maroc.
Oui.
Hein, c'est une guerre très très dure, où la France utilisera des moyens radicaux, puisqu'elle utilisera des gaz de combat. Ça, on ne l'a pas beaucoup dit. Et puis la Syrie aussi, qui fait partie de l'actualité aujourd'hui. La Syrie où donc la France exerce un mandat de la Société des Nations. Et la Syrie qui, pendant toute la période d'exercice de ce mandat, donc, qui s'achèvera à la Deuxième Guerre mondiale, sera réprimée en différents endroits par différentes luttes. C'est-à-dire la France coloniale fera beaucoup de mal et luttera beaucoup contre le peuple syrien qui ne veut pas être sous tutelle. Donc ça, c'est à rappeler parce que c'est un aspect qui est souvent passé sous silence, mais la dimension antimilitariste, anticolonialiste est très très forte puisque c'est la dimension antimilitariste aussi qui explique la filiation entre le Parti communiste français et le Parti communiste d'Union soviétique, dont ça a été le creuset.
Tout à fait. Et tu vois ce caractère de militants ambulants, on les appelait les militants ambulants.
Ambulants, oui.
Se déplaçaient dans toute la France pour porter la parole, quoi. On va le retrouver à nouveau lorsqu'en 1927, il va devenir secrétaire de la fédération CGTU des métaux, donc il va à Paris. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à l'époque, un secrétaire général national, hein, il est national,
oui.
Ne reste pas dans son bureau, il part sur les routes. Et qu'est-ce qu'il fait sur les routes? Eh bien, il a deux valises. La première contient ses effets personnels et l'autre des Vies ouvrières, ce journal qu'il vend sur les routes pour pouvoir vivre, pour pouvoir se payer les voyages. Et là, il se retrouve avec des gens comme Pillou, Marcel Paul, Prosper Mocquet, le père de
Guy Mocquet, oui.
Sur les routes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour de France des grèves. Alors, un coup, tu les retrouves à Roubaix, après tu les vois à Lyon, après tu les vois à Marseille. Alors là, à Marseille, ils ont fait un travail considérable auprès des dockers, auprès des métallos. Tu les retrouves après à Bordeaux. Ils sont constamment sur le terrain, et là, ils organisent les luttes, quoi. Et ils font ça des années 27 aux années 34.
Oui, d'ailleurs, travail considérable.
D'ailleurs, quand j'en parle à sa fille, qui a maintenant un peu plus de 70 ans, là, elle me racontait que sa mère, donc l'épouse d'Ambroise, ne l'avait pas vue pendant 3 ou 4 ans, quoi. C'était à peine une fois tous les 3 mois. Il revenait au bout de ses longues errances en France à la rencontre des ouvriers, quoi.
Voilà, donc c'est un type, un genre de militant qu'on n'imagine plus mal de nos jours.
Oui.
Un engagement.
Alors tu sais, là, dans cette période, c'est une période terrible, parce que le fascisme monte de partout.
Bien sûr.
Il est en Allemagne, il est en Italie, et il est en France. Et partout, il se confronte aux sorties d'usines, dans les rues, à des nervis patronaux, mais aussi à toutes ces ligues fascistes qui montent sur le terreau de la crise des années 30. C'est d'ailleurs là qu'on arrive à Marseille en 33, où au cours d'une manifestation, il y a une réunion qui a lieu à Marseille, avec Marcel Paul, donc, qui sera le futur ministre communiste de la production industrielle et de la libération avec Croizat.
Oui.
Marcel Paul est invité par la CGT à faire une grande réunion à Marseille pour faire le barrage déjà au fascisme. Croizat est avec lui. Et à l'issue de cette réunion, il y a une émeute, une bataille terrible. Et une femme très connue à Marseille, qui s'appelle Edmé Dijoux, infirmière, va être assassinée. Quoi. Et le lendemain, dans les journaux, ben, on raconte que c'était une vulgaire bataille entre des voyous et des syndicalistes.
Voilà. Tu vois ? Alors, les voyous en question, il faut le dire pour les Marseillais qui nous écoutent et même pour les autres, étaient organisés autour d'un transfuge du PCF était premier adjoint au maire, qui s'appelait Simon Sabiani, et qui finira donc à Sigmaringen dans les fourgons des nazis. Voilà. Et donc effectivement, le 6 février 34, puisqu'on en parlait récemment du fait que c'était le 80e anniversaire, et puis tu sais que nous avons organisé ici une émission et une conférence de Annie Lacroix-Ry sur ce thème-là.
Bien sûr, Annie, avec laquelle je travaille souvent.
Voilà. Et donc, effectivement, le 6 février 34 n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est le mouvement de progression des fascistes, mais qui ont déjà commencé à sévir. La preuve, c'est... Alors, je ne connaissais pas le nom de cette militante, Edmé Dijoux. Voilà, je ne sais même pas s'il y a une plaque, s'il y a une commémoration.
On n'a jamais trouvé de traces de...
Ah,
à part dans les archives et dans les archives militantes, dans le souvenir des anciens, quoi.
Il n'y a pas de traces anciennes. Voilà. Mais effectivement, alors les truands étaient du côté de Sabiani, puisque Sabiani protégeait les fameux Carbone et Spirito, donc qui étaient les chefs du grand banditisme, pas seulement marseillais, mais français. Voilà. Et qui ont donné l'image alors cinématographique, adoucie, arrondie, sophistiquée des Borsalino. Mais ils étaient beaucoup plus méchants que ça.
Bien sûr.
Ouais, ça c'est. Alors, vas-y, je t'écoute.
Tu vois sur le, c'est au fond dans ce Tour de France des grèves que font tous ces jeunes militants là de l'époque, dont Croizat, qu'ils s'aperçoivent que si on veut barrer la route au fascisme qui monte partout, il faut unir la classe ouvrière.
Voilà.
Cette classe ouvrière qui avait été désunie, tu sais, au congrès de Tours, où on avait les CFIO d'un côté, le PCF de l'autre, la CGTU d'un côté liée au PCF et la CGT liée au PS. Là, c'est cette union, et pour faire cette union, ils vont se battre, mais alors comme des chiens. Quand je lis la correspondance de Croizat, parfois il désespère, il dit jamais on arrivera. À unir ce peuple. Ben, ils y sont arrivés. Et cette union du peuple français, qui est conçue d'abord comme un barrage au fascisme et qui devient très vite une plateforme de revendication populaire, va donner ce qui arrive en 1936, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir, le Front populaire.
Mais ça va se fabriquer dans la difficulté, mais très vite, en même temps, l'idée de réunifier a lieu dès les lendemains, enfin la semaine suivant le 6 février. Il y a deux manifestations qui s'unissent spontanément.
Le 9 et le 12.
Et le 9 et le 12.
Et c'est assez intéressant de voir que le 12, tu as deux manifestations différentes, une de la CGT et l'autre de la CGTU, une de PC, une du PCF, une du PS. Et là, on entend s'écrivent venant des deux côtés, unité, unité, et les deux manifs se fusionnent pour faire une seule manif, et ça va donner, c'est la base, le socle même du Front populaire.
Et autant que je sache, et peut-être tu me contrediras, les dirigeants, enfin ceux qui avaient organisé ces deux manifs, n'avaient pas prévu la fusion.
Oui, bah oui, absolument. Absolument, comme d'ailleurs ils n'ont pas prévu tout ce qui va arriver après, c'est-à-dire les grands conquis sociaux du Front populaire, parce que lorsque le Front populaire arrive au pouvoir, c'est donc Blum qui est au pouvoir, et Ambroise Croizat est présenté député à Paris, il est élu. Le PCF a un poids assez important à l'époque, et très rapidement, on va avoir donc une gauche au pouvoir, et dans la rue, très rapidement, et c'est ça qui fait que les conquis sociaux vont arriver, eh bien, les ouvriers, le peuple, va se mobiliser. Il va se mobiliser très fort, à tel point qu'on va atteindre pratiquement 9000 occupations d'usines, des grèves partout, 5 millions de personnes dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils font, ces ouvriers ? Eh bien, ils attendent que se réalisent les promesses que la gauche avait tenues. Et voilà. Plus encore, et bien plus encore. Et ces promesses, elles vont tomber parce que le peuple est dehors. Et ces promesses, elles débouchent sur trois grands conquis sociaux. Donc en juin 1936, aux accords Matignon, c'est d'abord les congés payés. C'est une rupture absolument extraordinaire. Il faut se rendre compte que d'un seul coup, comme ça, on avait 12 jours ouvrables de congés. Ça n'était jamais arrivé, ça.
Et non, bien sûr.
Plus les 40 heures, mais les 40 heures, c'est énorme. La semaine de 40 heures, elle arrive en juin 36 et elle remplace une semaine qui atteignait parfois 68, 72 heures. Ouais. Et puis, la dernière loi, et ça, on la doit à Croizat, parce que c'est lui qui l'a conçue et qui l'a rapportée à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur les conventions collectives. Cette loi qui permet, tout à coup, qui substitue, tout à coup, au droit oral et divin du patronat, une codification écrite des conditions de travail établies avec l'assentiment des délégués du personnel élu. C'est absolument énorme, parce que d'un seul coup, les ouvriers ne seront plus payés au faciès, voilà. Mais par rapport à une classification établie par les travailleurs. Et ça, c'est absolument
assez fondamental, oui. Et voilà. Puis on sort du rapport individuel, c'est-à-dire le patron qui reçoit un ouvrier et qui lui dit voilà, c'est tel prix, alors que là, on a un cadre collectif, négocié collectivement. Oui, ça, c'est un acquis.
Et il faut imaginer la grande peur patronale.
La grande peur patronale
de l'époque, et tous ces gens qui prenaient peur quand ils voyaient arriver sur leur plage, d'un seul coup, ceux qu'ils appelaient les salopards en casquette, c'est-à-dire les ouvriers, qui d'un seul coup, grâce à cette ouverture vers les loisirs, pouvaient pour la première fois aller voir la mer, faire du vélo, aller en vacances. Enfin, toi, c'était l'embellie.
Alors effectivement, je retiens l'expression salopard en casquette parce que les illustrations que tu as choisies pour le livre montrent bien la différence. Les fascistes et les ligueurs qui manifestent le 6 février sont en chapeau.
Oui, c'est vrai.
Et les ouvriers sont en casquette, très majoritairement. Alors après, plus tard, on verra quelquefois Croizat avec un chapeau, mais là, c'est très, très net. Ouais. Il y a deux sociétés qui ne s'habillent pas pareil, et qui sont très, très différentes. Donc voilà. Et là, alors, je crois qu'il est dans la délégation de la CGT aux accords Matignon, Croizat.
Voilà. Et donc, il a en face de lui, alors on imagine, c'est la CGT d'un côté, avec Benoît Frachon et bien sûr Croizat qui est là, Jean-Pierre Timbaud, tous ces gens qui vont s'illustrer encore plus tard. Ouais. Et de l'autre côté, il y a tous les patrons, et les patrons, ils ont peur, quoi. Parce que dehors, il y a des millions de travailleurs qui occupent les usines et qui lâcheront pas tant que les conquis sociaux, d'ailleurs, le mot conquis sociaux, il nous vient de Croizat, il disait constamment, n'employez plus jamais ce mot acquis sociaux, parce que rien n'est jamais acquis, le patronat ne désarme jamais, dites conquis sociaux. Et ces conquis sociaux vont donc arriver grâce à la mobilisation du peuple. Mais tu sais, très vite, le Front populaire, il va se fragiliser, pour plein de raisons. D'abord, tu sais, c'est une coalition très hétéroclite, de partis différents.
Les communistes ne sont pas au gouvernement.
Non plus, ouais. Certains veulent des réformes de structure profondes, tu vois. D'autres n'en veulent pas. Celui qui est au pouvoir, Blum, lui, a promis de gérer loyalement le capitalisme, un peu en le raccommodant, si tu veux, avec des réformes sociales, mais en ne changeant pas profondément. Et puis tout ça va sauter avec un événement qui est très lourd à l'époque, c'est la guerre d'Espagne. Guerre d'Espagne qui va fracturer ce Front populaire. Certains, comme Blum, prônant la non-intervention en Espagne, et du côté des communistes et de la CGT, prônant l'intervention et la création de brigades internationales qui vont partir soutenir la République espagnole. Mais ça va être une fracture terrible. D'autant plus que très tôt, en 1937, Blum proclame ce qu'on appelle une pause, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les réformes, quoi. Il ne faut pas aller plus loin, parce que plus loin, c'est dangereux.
Voilà. Ce terme pause est d'une actualité cruelle.
On pourrait dire rigueur aujourd'hui, pourrait dire quoi.
Tout à fait. Alors, oui, la guerre d'Espagne, il faut expliquer que ce qui se passe, c'est-à-dire le gouvernement français, d'ailleurs comme le gouvernement britannique, dit « nous n'interviendrons pas », alors qu'ils savent, et les Espagnols vont le savoir, à Guernica et ailleurs, que les troupes et l'armée mussolinienne et l'armée nazie sont sur le sol espagnol pour soutenir les franquistes. Donc on a laissé les fascistes italiens et allemands faire le travail de destruction de la République espagnole en comptant les points de l'extérieur. Alors effectivement, à cette échelle, les brigades internationales, malgré tout leur courage, leur dévouement, etc., ne suffisaient pas, n'ont pas suffi.
Face à des escadrons de c'est l'escadrille Condor là qui bombarde Guernica, toutes les armes italiennes qui arrivent les brigades internationales, comme tu le dis, malgré leur courage, vont pas tenir quoi. Et très rapidement, le front va se fissurer et Franco, avec son armée, très vite arriver à repousser tout ça dehors quoi. Ce qu'on va appeler la retirade, d'ailleurs, les républicains espagnols vont être exclus, poussés dehors. Ils vont passer les Pyrénées, vont vivre dans des conditions abominables dans les camps du sud de la France, du sud-ouest, Brame, Gurs, Argelès, voilà. Et là, on entre, si tu veux, dans cette année terrible, qui est l'année 1938, où on est vraiment au tout début de la fin. En 1938, en France, il y a un homme au pouvoir, c'est Daladier, à la tête d'un pâle reflet du Front populaire, et lui décide, tu vois, de publier une série de décrets qu'on appelle très vite décrets misère à l'époque, qui reviennent sur tous les acquis de mai. On supprime la semaine de 40 heures. On porte atteinte aux conventions collectives. On supprime une grande partie des congés payés. On multiplie les impôts, les taxes, on baisse les salaires. Immédiatement, la CGT lance une grève générale. Cette grève générale a lieu le 30 novembre 1938, le jeudi, qu'on va appeler le jeudi noir. Et cette grève, elle échoue. Pourquoi elle échoue ? Parce que le patronat, le gouvernement, a fortement mobilisé l'armée. L'armée qui est devant ou dans les usines. L'armée qui a réquisitionné tous les transports, avec devant chaque usine une affiche que j'ai encore chez moi, comme militant m'a donnée. Sur cette affiche, je lis la chose suivante. Tous ceux qui feront grève le 30 novembre 38 seront licenciés le 1er décembre. Tu vois. Voilà. Et le 1er décembre 38, en France, tu as 44 000 licenciés. La majorité sont des travailleurs CGT. La CGT est décapitée.
40, c'est énorme. Alors,
44 000 licenciés en France, essentiellement dans l'aéronautique, la chimie et la sidérurgie. Et là, c'est c'est ce que titrait un journal CGT de l'époque. Le patronat a fait le savant triage qu'il attendait, quoi. Tu vois. Et c'est tous les militants qui ont osé en mai 36 qui vont payer très cher. Et on peut dire déjà que, tu vois, la résistance future, il va falloir qu'elle se reconstitue complètement parce que la plupart des gars sont déjà cassés, quoi.
Et bien sûr, presque morts de faim ou avec des difficultés matérielles considérables.
On les reprend pas dans les boîtes.
Bien sûr.
J'ai chez moi un truc que des camarades m'ont donné, qu'on appelait des listes noires.
Voilà.
Où les patrons des usines envoyaient chez les artisans locaux des noms de gens, en leur disant, si vous reprenez ces gens-là qu'on vient de licencier, vous n'aurez plus de travail avec les usines. Quoi. Tu vois
Oui, donc effectivement, on mobilise. Donc, on est déjà, alors, d'une part, le fait qu'il y a l'intervention de l'armée, implication, plus cette mesure patronale, on est déjà en situation pré-fasciste.
Voilà. Et là, on sent bien qu'on va très vite arriver dans l'année terrifiante, parce que celle-là de l'année 39, qui en plus va être l'année, tu sais, du pacte germano-soviétique, le 23 août, qui va permettre, si tu veux, ce pacte, de régler une bonne fois pour toutes la question de ceux qui s'étaient engagés en mai 36. Parce que les lendemains du pacte germano-soviétique, c'est une vraie chasse aux communistes, quoi. L'hystérie, c'est vraiment terrible. On dissout le Parti communiste, on dissout l'humanité, toutes les mairies communistes sont dissoutes, ça on se rend pas compte. Il y a 4000 mairies qui sont dissoutes en France. Les militants sont arrêtés, la plupart avec ce motif-là, nuisant à l'intérêt national, tu vois. Et la drôle de guerre qui commence, parce que la guerre commence, ça va être d'abord une drôle de guerre aux travailleurs, quoi. On va en finir, enfin, avec tous ceux qui ont tenté de de changer la société et d'espérer la dignité, quoi. Et là, très vite, c'est la guerre de 40, et tous ceux qui se sont engagés vont payer très cher, notamment Ambroise Croizat, qui est arrêté le 7 octobre 39 devant l'Assemblée nationale avec 35 autres députés communistes. Ils sont mis à la prison de la santé. Là, ils sont traités comme des vulgaires droits communs. Ils sont déchus de leur mandat. Ils passent devant un tribunal militaire dans lequel ils ressortent avec 5 ans de prison ferme, des amendes colossales et la déchéance des droits civiques. Et là, ils sont emmenés dans des fourgons cellulaires qui vont descendre jusqu'à Marseille. Oui. Alors, tu imagines, ils font toutes les prisons en descendant, ils en font 14 prisons, et ils arrivent dans ce beau fort Saint-Nicolas que vous avez à Marseille, là-bas, auquel je vais souvent, et c'est là qu'ils sont enfermés pendant 15 jours, sans savoir ce qu'on va faire d'eux. Ils vont l'apprendre quand ils vont être dirigés vers le port, et le port, c'est un bateau, et ce bateau, il va où? Eh bien, il va au bagne. Les envoie au bagne d'Alger.
À ce propos, est-ce que je voudrais, si tu me permets, lire une des lettres que Ambroise Croizat écrit. Alors, parce que tant qu'il est à la santé à Paris, il peut encore écrire. Après, le régime de l'incarcération se dégrade et ça ne sera plus que des petites notices et à la fin, plus rien du tout. Donc, ça, c'est la lettre du 22 octobre que je lis. Donc, il adresse à sa femme. « Troisième dimanche que je passe dans cette maison close », alors il le met entre guillemets, ne pas confondre évidemment, « je viens de recevoir ta lettre ainsi que celle des députés de notre groupe qui fait, comme on dit, son devoir de français, comme 20 des nôtres le font présentement en étant aux armées. Comme je te l'avais indiqué, j'ai fait une demande pour obtenir le régime politique. Ça, c'est très important. Je n'ai obtenu aucune réponse. Je vais attendre encore quelques jours et si rien ne vient, peut-être me déciderai-je à faire la grève de la faim. Il est inadmissible que des gens ayant commis dans le passé des crimes monstrueux, tels les cagoulards, qui auront donc, c'est les ligues d'extrême droite qui auront assassiné des militants, aient bénéficié du régime politique et que moi, qui n'ai rien fait, sauf si l'on invoque à mon égard des reproches forcément politiques, je sois placé ici au même niveau que les escarpes. Donc là aussi, on est dans une situation pré-fasciste, c'est-à-dire effectivement, les députés communistes sont en prison pour le motif qu'ils sont communistes, point. Il est député à l'époque. Et les autres, ceux qui ont animé la manifestation du 6 février 34, ceux qui vont ensuite assassiner avec la milice toute une série de militants ou même de dirigeants, je pense à Marx Dormois par exemple, et bien d'autres, ceux-là ont les honneurs de ce qu'on ne peut plus appeler déjà une république. Voilà. Mais je voulais situer la prison. Mais effectivement, la prison va se dégrader de plus en plus. Au début, ils sont dans une prison donc à Paris. Et puis après, c'est le bagne. Alors là, bon, je te laisse parler du bagne. Bagne à Alger.
C'est le bagne avec la... d'ailleurs, Virgile Barrel, qui était un compagnon de Croizat, le dit. Ils ont un costume de bure. Ils ont des boulets ou des fers aux pieds. Ils vivent dans des conditions abominables. Tu sais, entre le sirocco, la dysenterie, ils sont frappés, pas soignés, dans des conditions absolument terribles, tu vois. Et parallèlement à ça, la famille Croizat, en France, elle est poursuivie, tu vois. Et grâce à ce qu'on appelait à l'époque le secours rouge, qui est venu après le secours populaire, toute la famille Croizat a pu descendre vers le sud et se cacher. Et ils sont allés successivement à Baume de Venise, puis Gigondas. Et là, ils ont été aidés par un type absolument extraordinaire qui a été assassiné par les nazis, qui s'appelait Albin Durand, qui était un résistant du Vaucluse. Mais ils ont vécu dans des conditions terribles, quoi, constamment se cachant parce qu'ils étaient recherchés eux aussi par la Gestapo. Voilà. Alors tu vois, après ce passage au bagne, donc on est en février 43, en novembre 42, il vient d'y avoir le débarquement anglo-américain à Alger. L'espace algérien devient un espace qui se libère, avec le général de Gaulle qui va pas tarder à arriver. Et là, on va libérer les députés communistes des prisons. Et ces députés vont devenir des membres de ce qu'on va appeler l'Assemblée consultative qui entoure les débuts du gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger. Alors, dans cette Assemblée consultative, Ambroise a le rôle la présidence du commission du travail, et c'est là qu'il va réfléchir et élaborer toutes les grandes lois sociales de la libération en relation directe avec ce qui est en train de naître en France, qu'on appelle le CNR.
Voilà.
Le 27 mai 1943 en France, 19 jeunes, parce que c'est ça le CNR, hein,
oui, oui,
sous
oui.
l'autorité de Jean Moulin, se réunissent à Paris, 48 rue du Four, en totale clandestinité, et décident de s'attribuer deux missions. L'une, unir la résistance pour chasser les nazis. L'autre, publier un programme, qui sera le programme du Conseil national de la résistance, d'où vont sortir tous les grands conquis du siècle. Et on voit bien le travail permanent et en relation entre cette commission consultative d'Alger dans laquelle il y a Croizat et le CNR en France. Tout ça se fait de manière clandestine. C'est
bien
par
sûr.
Parachutage, par rencontre clandestine. Enfin, c'est absolument extraordinaire.
Extraordinaire. Alors, il faut souligner d'ailleurs que si De Gaulle fait ce geste donc de sortir les communistes de l'illégalité et de la prison, c'est qu'il a bien pris en considération le rapport des forces sur le terrain. C'est-à-dire que tous les militants communistes n'ont pas été ni assassinés ni emprisonnés.
Oui.
Et donc la résistance au début, c'est bien eux. De Gaulle le sait.
Ouais.
Donc il sait qu'il a là sa force d'appui dont il se débarrassera ensuite. Mais ça, c'est autre chose, c'est la suite de l'histoire. Mais à ce moment-là, il sait que pour lui, c'est décisif.
Bien sûr. Et tu vois, Annie Lacroix-Riz, que vous avez reçue récemment,
elle
a beaucoup sur l'implication des communistes à la résistance. Elle le montre à travers un exemple très simple. Elle a travaillé beaucoup sur les archives de police et les rapports des préfets sur les actions de la résistance. Et elle disait que ces carnets font une quinzaine de pages, et dans ces 15 pages, il y en a 14 qui traitent de l'arrêt d'un communiste, quoi. Tu vois ? Et une seule page pour les gaullistes, qu'ils appelaient les gaullistes à l'époque, quoi. Donc il y a une prédominance, il y a une force communiste dans cette résistance, et c'est vrai que De Gaulle va devoir en tenir compte. C'est d'ailleurs cette force communiste à la libération qui va faire que les conquis sociaux vont arriver, quoi.
Bien sûr, oui, parce qu'effectivement, tout ça va déboucher sur l'après 45,
voilà.
Et donc le gouvernement provisoire.
Voilà, en 44, donc, De Gaulle revient en France, en avion, et dans l'avion...
Étienne, je voulais revenir sur la prison, parce que j'ai lu dans ton livre, ce qui m'a beaucoup frappé, que les conditions d'emprisonnement, donc pendant 3 années pleines, même un peu plus, ont été telles que Ambroise Croizat, qui était apparemment un grand gaillard, assez charpenté, perd 32 kilos.
Ah, c'est
et que sa femme dit, quand elle va le revoir en 45, qu'elle ne l'a d'abord pas reconnu.
Oui, et en plus, ça s'est passé chez vous, à Marseille.
Ouais.
Quand il est rentré en France... Il est allé d'abord tout de suite à Marseille, et sa femme Denise était à Paris à une réunion après à la libération, et quelqu'un est venu lui dire on sait où est ton mari, il est à Marseille, il vient d'arriver à Marseille. Et là Denise et Liliane, la fille, descendent à Marseille. Et ils vont vers Croizat et ils reconnaissent pas Croizat. Tu vois. C'est quand même terrible, hein.
Ouais, c'est terrible.
Il était là à la tribune et tu vois, la dureté, c'est pas étonnant que ce type, il est mort à 51 ans, quoi. Il a vécu des choses absolument...
Ah, voilà, très, très, très dures. Donc revenons, est, la libération est faite et donc le gouvernement provisoire se met au travail.
Voilà, et là, on est donc en novembre 1945, De Gaulle est au pouvoir. Le rapport de force de l'époque fait que De Gaulle va être obligé de prendre des ministres communistes et surtout d'appliquer toutes les grandes réformes proposées par le Conseil national de la résistance. Quel est ce rapport de force? Il est simple. 28% des voix au Parti communiste, premier parti de France. 5 millions d'adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par sa résistance, un patronat totalement mouillé par sa collaboration. Tout ça, ça permet d'appliquer toutes les grandes réformes prévues, dont cette réforme phare que l'on doit pour beaucoup à Croizat, qui est la sécurité sociale. Et là, c'est un travail absolument colossal, puisque Croizat est nommé donc en 45, le 29 novembre 45. Il va rester 2 ans au ministère du Travail. Et en seulement 8 mois, le peuple de France, avec Croizat, va bâtir 138 caisses de sécurité sociale, basées sur 4 grandes idées, qui sont les quatre grands postulats d'identité française, soit en matière de protection sociale. Un, c'est l'unicité. Dans chaque caisse, on regroupe tous les ce qu'on appelle les risques sociaux, maternité, vieillesse, maladie. Ouais. Deux, l'universalité. On décide que tout le monde sera soigné, tout le monde. Ceux qui ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas, par exemple les artisans. Trois, et c'est ce qui fait peut-être la force de cette sécu, la solidarité. On décide que toute l'institution sera basée sur la solidarité, sur un système de répartition. Mm-hmm. Solidarité actif, non actif, malade, bien portant, et surtout le tout financé par les richesses créées dans l'entreprise, par ce qu'on appelle la cotisation sociale, qui n'est pas une charge, contrairement à ce que nous pouvons nous faire croire, mais qui est une partie du salaire.
Différé.
Salaire différé ou socialisé.
Voilà.
Et puis, quatrième grand volet de cette sécu, c'est l'idée de Croizat, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et Croizat disait, si on ne fait pas gérer l'institution elle-même par les travailleurs eux-mêmes, on ne garantira jamais l'accès au droit à la santé pour tous. C'est l'idée des élections, qui fait que dans chaque caisse de sécurité sociale, les travailleurs ont 3/4 des sièges et le patronat 1/4. Ce qui fait que les travailleurs possèdent et dirigent et gèrent la sécurité sociale. Ça, c'est un truc extraordinaire. Et bien, malgré ça, il y a encore à l'époque des tas de gens qui sont contre la sécu. Les médecins qui refusent la fixation des tarifs, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des honoraires en plus, tu vois.
Bien sûr.
Voilà. Certains mutualistes. La droite n'en veut pas.
Bien sûr.
Pas mal de socialistes n'en veulent pas non plus. Les assurances privées, tu penses bien, n'en veulent pas. On leur enlève leur pain, là.
Ouais.
Donc, il a fallu vraiment se battre, malgré ce rapport de force extraordinaire, pour imposer ce chef-d'œuvre de dignité qu'est la sécu, qu'on nous détricote aujourd'hui abondamment, quoi.
Voilà. Dont il faut rappeler, tu fais bien de le faire, l'universalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, des bourgeois, disons pour faire simple, ça trouve très bien d'être affilié à la sécurité sociale et de bénéficier du système.
Ah oui, alors que beaucoup à l'époque ne voulaient pas, tu sais, ils ne voulaient pas se prolétariser.
Oui.
Aujourd'hui, beaucoup aimeraient, même veulent y être absolument, quoi.
Alors il faut rappeler donc cet acquis donc des élections donc des travailleurs qui sont directement concernés parce que c'est leur retraite, leur couverture maladie qui est en cause, vont être poussés à la marge de l'institution progressivement.
Oui, oui.
Et il faut rappeler sans doute qu'il pour moi une date symbolique, c'est-à-dire un certain été de 1967.
Ah, c'était terrible.
Voilà. Ouais. Ou un gouvernement. Vas-y, je te laisse expliquer.
Les ordonnances Jeanneney, donc sous De Gaulle.
Dit de gauche, hein, Jean-Marcel Jeanneney.
Il y avait déjà les premières attaques en 1958.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on fait en 1958? On impose le contrôle préalable des budgets et on nomme les directeurs de caisse qui étaient auparavant élus.
Voilà.
Et puis en 67, là, c'est le coup près. Les ordonnances Jeanneney qui, un, suppriment les élections de la sécurité sociale. Deux, instaurent ce qu'on appelle le paritarisme.
Ouais.
Alors l'idée est simple. Auparavant, 3/4 des sièges aux salariés, 1/4 au patron. Là, le paritarisme, c'est 50-50.
Ouais.
Il suffira d'un syndicat minoritaire.
Ça existe. Ça existe.
Voilà, pour faire tourner... la sécu en faveur des patrons. Et puis, trois, c'est ce qu'on appelle la casse de l'unicité, c'est-à-dire on casse la sécu en branches, en trois grandes branches, qui seront beaucoup plus faciles ensuite à démanteler, quoi.
Donc,
et après, tu le sais, hein, ça va être l'institution du forfait hospitalier, les réformes BAR, jusqu'à aujourd'hui, les franchises, les attaques permanentes, quoi. Ce que Kessler... l'ancien numéro
2 du MEDEF,
du MEDEF demandait de détricoter tous ces grands acquis de 45, en finir avec l'esprit de 45. Quoi.
Ouais. Alors, on voit, en même temps, parce qu'il faut toujours garder courage, que ce travail énorme sur lequel on va revenir dans Ambroise Croizat en 18 mois, il faut des décennies pour arriver à le défaire.
Ouais.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a, et donc on est encore au moment où il n'est pas totalement défait, donc la lutte mérite d'être menée. Et deuxième observation que je voulais faire, c'est que on a parlé de mai 68 comme d'un mouvement étudiant. Il faut pas oublier qu'il y a quand même eu autant de grévistes en mai 68 qu'il y en avait eu en juin 36, peut-être même un peu plus, et que dans la mobilisation syndicale qui a eu lieu donc après le démarrage du mouvement étudiant, la question des ordonnances de 67 était une plaie très vive. C'était quelque chose qui avait été vécu comme insupportable, qui n'avait pas, à la rentrée 67, on n'en avait pas beaucoup parlé, mais ça restait comme une agression extrêmement forte. Et donc, l'explosion ouvrière de 68, qu'il ne faut jamais oublier, elle vient aussi très largement de là.
Oui, oui, absolument, oui.
Ça, c'est un élément important. Donc, alors voilà, Croizat avec ses trois camarades. Alors, il faut noter aussi que De Gaulle n'est pas un progressiste. Et donc, il a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les ministères régaliens à des non-communistes. Je veux dire, la défense, les affaires étrangères, etc. On a cantonné les communistes à des ministères sociaux. Seulement, on n'a pas pu les empêcher de faire un énorme travail.
Je pense à Marcel Paul qui a créé... EDF, par exemple, tu vois.
Voilà, oui.
Travail énorme sur le statut des électriciens gaziers. Mais quand on regarde, par exemple, l'héritage social de Croizat, il faut juste en dire un mot, mais il est extraordinaire, quoi. Hein.
Vas-y,
La sécurité sociale, les comités d'entreprise, c'est vraiment la marque de Croizat.
Tout à fait.
La formation professionnelle, le statut des mineurs, le statut des électriciens gaziers, co-signé avec Marcel Paul, le statut de la fonction publique, co-signé avec Thorez, il a fait un travail énorme, Croizat, sur ce statut-là. La caisse d'intempéries du bâtiment, la reconnaissance des maladies professionnelles, la prévention dans l'entreprise, tu sais, les CHS.
Tout à fait.
C'est un travail fou, mais en 2 ans. Et Liliane Croizat, la fille d'Ambroise, me disait que, comme sa mère n'avait pas vu beaucoup son père pendant la période de militant ambulant, elle l'a pas vu beaucoup pendant la période du ministère, parce qu'ils étaient constamment sur le terrain. Une pratique extraordinaire de démocratie participative, tu vois. Ils allaient sur le terrain, devant les entreprises, dans les mairies. Là, ils réunissaient les gens, ils écoutaient les doléances, et ces doléances étaient transformées en décrets et en lois, après par eux-mêmes, quoi. Il y avait une pratique de proximité assez fabuleuse.
Assez
quoi,
fabuleux. Hein. C'est-à-dire toujours ne pas rester enfermé dans le ministère, mais aller vérifier sur le terrain si c'était bien ça qui était voulu. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que la droite qui va voir arriver ces mesures commence à traîner les pieds. Mais en fait, la capacité d'innovation sociale portée par cet énorme mouvement dont tu parles fait que les contraintes, parce que la France a souffert, elle sort de la guerre, elle a été abîmée, et malgré tout, on va passer, et c'est ça qui est un mouvement social fort, on va passer sur le fait que des difficultés d'intendance pourront surgir, mais que de toute façon, c'est une nouvelle société qu'on construit, et que ça dépasse toutes les considérations d'intendance.
Oui, et tu vois, ce qui est fort quand même dans ces gens de la Libération, c'est qu'ils ont mis l'humain au centre de tous leurs choix politiques, quoi. C'est ça, moi, qui me passionne, de voir que dans un pays ruiné,
voilà, c'est ça.
Ils arrivent à soigner toute la population. Aujourd'hui, on est la 5e puissance du monde, et je ne sais pas si vous le savez, mais 34% des Français hésitent ou renoncent à se soigner.
À se soigner.
Dans la cherté des prix.
Voilà, du fait qu'effectivement, il y a eu le ticket modérateur, enfin, toute une série de désagrégations du système originel, et que la santé se met à coûter cher. Voilà.
Et tu vois, il suffirait d'un peu de courage politique pour résoudre le problème de la protection sociale, parce que quand même, quand on regarde, c'est vraiment terrible. Hein. Aujourd'hui, les comptes ont été faits il n'y a pas longtemps, il y a 312 milliards d'euros de revenus financiers qui ne sont soumis à aucune cotisation sociale.
Voilà.
Il y a 50 milliards d'euros d'exonération patronale.
Oui.
Tu y ajoutes 100 milliards d'évasion fiscale. Tu y ajoutes les 20 milliards qu'on vient de donner pour le crédit d'impôt. plus les 30 milliards qui viennent d'être donnés encore pour supprimer la cotisation. Ben voilà, quoi. Hein. Qui sont les assistés? C'est sûrement pas les pauvres, quoi.
Non, exactement. Et effectivement, voilà, ça fait partie donc de l'organisation de la déconstruction de l'œuvre de Croizat et de ses amis, qui est une œuvre de très longue haleine et qui nécessiterait effectivement une mobilisation forte pour s'opposer à la destruction. D'autant plus que tu le soulignais tout à l'heure, il faut le dire, ce système-là est un système très avancé par rapport à beaucoup d'autres.
Oui.
Et que le patronat français et la bourgeoisie française n'est certainement pas la seule à vouloir lui tordre le cou. C'est-à-dire que c'est un très mauvais exemple, même international.
Européen,
voilà.
Oui.
Et que là, l'Union européenne et son orientation capitaliste effrénée fait partie des outils, enfin des moyens de la casse.
Bien sûr, exactement.
Ouais. Alors, est-ce que j'aimerais qu'on revienne un peu, parce que tu as cité toute une série de régimes sociaux, un peu plus dans le détail, parce que ce n'est pas forcément que tous les éditeurs connaissent ça. Qu'est-ce que c'est que le régime des intempéries? Qu'est-ce que c'est que le... Pour bien détailler l'ampleur de l'œuvre.
Oui, par exemple, avant Croizat, tous les travailleurs qui travaillaient dans le bâtiment, donc ils étaient soumis aux intempéries, dès qu'il y avait une pluie ou une neige, ils arrêtaient de travailler. Et évidemment, ils n'étaient pas payés.
Ils n'étaient pas payés, voilà.
La grande idée de la caisse d'intempéries, c'est de faire une caisse, hein, un système de protection sociale, qui fait que chaque fois que l'ouvrier arrêtera de travailler à cause des intempéries, il sera payé. Il sera payé pratiquement avec son salaire entier. C'est une nouveauté extraordinaire. Ensuite, il y a cette fabuleuse idée, et elle est d'une modernité extraordinaire, de ce qu'on appelle la prévention dans l'entreprise, tu vois.
Voilà.
Croizat pensait que c'était la priorité des priorités. Et il a fait reconnaître un tas de maladies professionnelles qui passaient comme ça à l'as, quoi, qui étaient considérées comme des maladies de la personne et pas du tout. Et là, à partir de ce moment-là, les patrons vont payer, quoi.
Tout à fait.
Par exemple aussi, moi ce qui me frappe, voilà, et on peut peut-être résumer le tout comme ça, c'est l'idée. Chez Croizat et tous ceux de la Libération qui s'inspirent du CNR, de faire un lien fort entre un développement économique important, fort, et un statut social à la hauteur des hommes. Et il y a une très belle phrase de Croizat et de Marcel Paul qui dit ceci: si on veut un développement économique de qualité à la hauteur des besoins d'une nation, il faut donner à l'homme un statut social à la hauteur de ses besoins. Et ça, cette phrase-là, elle va conditionner toute la politique sociale de la Libération de Croizat. Il pensait, et ça c'est très moderne, hein, qu'il fallait sécuriser tout le parcours de vie de l'individu. Alors on commence par l'enfance. Il faut que l'enfance soit digne, un statut social digne. Qu'est-ce qu'il fait, Croizat? Il multiplie par 3 les allocations familiales. Il crée l'allocation de salaire unique pour les femmes. Il crée il multiplie par 2 le temps du congé grossesse, tu sais, ce qu'on appelle
le congé maternité. Aujourd'hui.
L'enfant ensuite grandit.
C'est la durée actuelle est celle qu'il a fixée, lui.
Oui, voilà. Ouais. Et ensuite, l'enfant grandit, donc il faut le former. Là, c'est toutes les lois sur la formation professionnelle. Tu sais que la FPA, c'est lui le créateur.
Oui, oui.
L'association de formation pour adultes.
Oui.
L'enfant grandissant, étant formé, il va rentrer dans l'entreprise. Donc là, il faut un statut social fort, donc des conventions collectives fortes, la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, donc une vraie protection sociale de l'homme dans l'entreprise pour qu'il soit un vrai acteur et gérant de l'entreprise. Et puis, quand il vieillit, il lui faut une retraite de dignité. Et c'est la grande idée de 1946 avec sa loi qui permet de généraliser la retraite à tous les vieux travailleurs, quoi, à tous les travailleurs. Ouais, c'est quand même absolument fabuleux. Hein.
Considérable et qui n'est pas répandu dans toute la planète aujourd'hui, loin s'en faut. Donc là, il y a un aspect progressiste.
Voilà. Et cette grande leçon-là, on la doit, tu vois, à notre histoire sociale. Moi, je suis fasciné par la manière dont toutes ces conquêtes sociales nous viennent de notre passé. Je sais pas, par exemple, quand je regarde la Déclaration des droits de l'homme de 1793,
oui, oui.
Des sans-culottes.
Oui, oui.
On a déjà dedans le droit au travail et le droit à la santé. Et
ouais.
Quand je regarde le droit à la santé, la phrase est la suivante. Il faut que la société aide les citoyens malheureux, leur donne des moyens d'existence au cas où ils ne pourraient pas se les procurer par le travail. Eh bien, cette phrase-là, Croizat la reprend comme ça, telle quelle.
Telle quelle, tout y est.
Ça devient le fondement de la sécurité sociale de 1946, tu vois. Et tout est comme ça. Quand on regarde, par exemple, l'œuvre de la Commune de Paris, il y a déjà en contenu, enfin, toute l'école laïque gratuite obligatoire, le droit au travail, le droit à la santé. Et tout ça, c'est notre histoire sociale, quoi, qui fait que ça a germé dans le futur. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis pas pessimiste, parce que je me dis que chaque fois, il y a quelque chose qui bouge. Et je sais pas si il faut qu'on termine, mais
on a le temps, vas-y, bon, vas-y.
Tu sais, quand souvent dans les réunions, les gens désespèrent, tu sais.
Oui, oui, bien sûr.
Alors moi, je leur dis, mais écoutez, il faut simplement regarder l'histoire de notre histoire sociale. Prenons d'abord la Commune de Paris. Quand la Commune de Paris est écrasée, elle est vraiment écrasée, hein, il y a 27 000 fusillés à Paris.
Absolument.
Il n'y a plus aucun espoir. Hein. Eh bien, aussitôt, ça repart avec tous les mouvements syndicaux. Tu vois, la création des syndicats, les grèves et tout ça.
Ouais.
Regardons 1919 en France. C'est la France sort d'une boucherie abominable.
Ouais.
Tu vois, millions de morts.
Ouais.
Tout le monde est à plat. Eh bien, paf, ça repart. Et on obtient la loi des 8 heures. Regardons, mais 1934, quel espoir peut avoir un jeune Français un peu engagé en 34? T'as le fascisme est partout.
Absolument.
En Allemagne, en Italie, en France, il est partout. Eh bien, où va la France? Vers le Front Populaire, tu vois.
Ouais.
Quel espoir peut avoir un Français en 1940? Il n'y en a plus, les Allemands sont là,
ouais.
Sous la botte, on est tout. Eh bien non, il y a des gens qui se lèvent et qui disent non, on ne veut pas ça. Ça donne la résistance. Et la plus belle leçon qu'on ait d'optimisme, c'est justement ce Conseil national de la résistance. Regarde, 19 jeunes qui se réunissent en toute totale clandestinité, qui inventent une France nouvelle. Comment ils pouvaient imaginer, ces jeunes-là, que 2 ans après seulement, tout ce qu'ils avaient inventé allait être réalisé?
Serait dans la loi, oui.
Quelle leçon, quelle utopie, quelle... Regarde la dernière chose qu'on pourrait dire, quand tu relis le monde du 28 avril 1968. Tu lis un article de Vincent Ponté qui dit « La France s'est endormie ».
La France s'ennuie, oui.
Ouais, s'ennuie, on écoute Verschuren, Mireille Mathieu, je sais pas quoi, là, Yvette Turner, c'est foutu, il n'y a plus de mouvement. Et ben le 3 mai 68, c'est toute la France qui rentre en grève, toi. Et c'est constamment comme ça, l'histoire.
Donc il y a effectivement, c'est l'histoire de la lutte des classes dans notre pays, voilà. Mais c'est un mot que les gens n'aiment pas prononcer. Mais ceux d'en face le savent, c'est-à-dire qu'ils savent qui il faut réprimer, qui il faut emprisonner, quel parti il faut interdire. Tout ça est bien mérodé. Et avec qui travailler, donc avec qui travailler, avec Franco, avec Hitler, etc. Ouais, tout ça fait partie de l'histoire et on veut pas trop le voir. Ok, qu'est-ce qui se passe donc? Je sais que dans le livre il y a un moment où Croizat dit il faut accélérer, il faut aller vite pour faire l'énorme travail qu'il est en train de faire, parce que je sens bien que du côté de la droite, ça freine.
Alors, du côté de la droite, très vite, il va y avoir des freins, notamment beaucoup du côté du Parti Socialiste, par exemple, sur le refus de la nationalisation d'EDF. Ils voulaient, eux, créer une espèce d'office, tu vois.
Oui.
L'électricité. Ils ne voulaient pas de nationaliser la distribution. Il y avait plein de problèmes aussi pour la mise en place de la Sécu. Tout le mouvement chrétien, la CFTC par exemple, fuyait toutes les discussions, refusait,
oui.
Parce qu'ils sentaient que la CGT allait s'emparer de la chose. Et puis le mouvement international, on voit bien qu'à partir des années 48, ça commence à freiner sec.
Voilà, exactement.
Il y a la guerre froide qui arrive.
Voilà, exactement.
Il y a le plan Marshall qui arrive. Si vous voulez qu'on vous aide... Les Américains disent, si vous voulez qu'on vous aide, bah écoutez, il faut vous débarrasser des rouges, là.
Exactement.
Hein,
exactement.
Et ils vont s'en débarrasser, parce qu'en 47, en avril 47, en mai 47, donc le 5 mai 47, les communistes sont virés du gouvernement. Et Ambroise Croizat, quand il est arrivé au pouvoir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, disait, on a intérêt à faire très vite. parce que ça va pas durer, quoi.
Ça va pas durer.
Et effectivement, ça n'a pas duré, parce que dès 47, avec l'exclusion des ministres communistes, là, ça va taper de tous les côtés, quoi.
Voilà.
Et ça va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Tout à fait.
C'est-à-dire... On voit bien la rupture. Et d'ailleurs, tu vois, Ambroise Croizat, tu le sais, est peu connu. Il a fallu faire tout un travail pour le faire rentrer dans le dictionnaire, dans les livres scolaires.
Et
ça seulement, moi, je suis arrivé en 2012, tu vois. On voit bien pourquoi. Parce que ce nom-là, il rappelle des choses tellement actuelles, tellement brûlantes.
Exactement. Exactement.
Et puis surtout, on le voit très nettement, par exemple, dans les livres scolaires. Je ne sais pas si tu as déjà lu des livres scolaires, mais ils sont vidés de toute histoire sociale. Et ça, on le voit très nettement, tu sais, à partir de quand ? À partir de 1950. Moi, quand je prends des livres scolaires de 48, 47 encore,
oui.
je retrouve tout le tu vois, le CNR, tout ça.
Ah,
à partir de 50, avec la guerre froide, où il faut virer tout ce qui est communiste, ça, les livres scolaires se vident. C'est étonnant, hein.
Ah, oui,
on va voir disparaître. Et quand on regarde aujourd'hui nos livres scolaires, moi je suis peiné chaque fois, hein, j'ouvre une page, j'ai été prof d'histoire toute ma vie, je sais, j'ouvre la page de la résistance, par exemple, tu vois.
Oui.
Alors, voilà ce que je lis pour nos gamins. La résistance est présentée comme une addition d'actes héroïques, ce qui est vrai, tu vois.
Mais
en aucun cas, on ne parlerait du programme du CNR.
Ah.
Et il suffirait de rappeler le préambule du programme du CNR et pour rappeler ce que c'est. Moi, je l'ai appris par cœur parce qu'il est tellement extraordinaire. Le préambule du programme, c'est ça. Nous, combattants de l'ombre, réclamons une véritable démocratie sociale impliquant l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie.
Bravo.
L'association des travailleurs à la gestion des entreprises et le retour à la nation de tous les moyens de production, des richesses du sous-sol, de l'énergie, des grandes assurances et des banques. Tu vois, alors là, tu as tout compris, quoi.
Bien sûr. Voilà. Et c'est effectivement ce type de programme que la classe bourgeoise ne veut pas voir, ni lire, ni entendre à aucun moment. Puisqu'en fait, tout y est, puisque c'est la marche vers le socialisme, appelons ça comme ça, parce que ce n'est pas un mot obscène de dire socialisme, vu comme ça.
Bon. Et d'ailleurs, la sécurité sociale, quand on regarde, c'est assez fabuleux l'idée, elle est basée uniquement sur la solidarité, c'est la seule création de richesse sans actionnaire. Il n'y a pas d'actionnaire dans la Sécu.
Tout à fait.
L'argent de la Sécu, c'est de l'argent de la solidarité.
C'est
qui sert immédiatement au bien-être des habitants.
C'est le produit du travail. C'est le produit du travail.
Il y a un îlot de socialisme dans la France. On comprend pourquoi
il est.
C'est dangereux, quoi.
Voilà, tout à fait. Exactement l'inverse de ce qui est proposé en disant prenez une assurance par capitalisation et mettez votre argent entre les mains de gens qui vont vous voler à la première occasion.
Oui.
Non, c'est exact.
Et aujourd'hui, tout ce qui ne va pas à la finance est considéré comme une charge, tu vois.
Exactement.
Et on parle du coût du travail, mais alors, soit ça m'a fait rire, le soir, un ouvrier disait, mais le coût du travail, pourquoi ils disent coût du travail ? Le travail, ça rapporte, c'est pas...
Évidemment.
Ça rapporte pas, ouais. Et tu vois, alors que le coût du capital est vachement plus important.
Ben évidemment.
Fonction extraordinaire. Je regardais les chiffres deux fois. En 1980, un ouvrier français travaillait par an 12 jours pour les actionnaires. Tu vois ? Aujourd'hui, c'est 45.
Voilà, c'est ça. La modification, la dégradation du rapport de classe au détriment de la classe travailleuse est énorme. C'est vrai dans tous les chiffres. Ouais. Tu fais bien de le rappeler parce que c'est aussi ça qu'il avait rayé, pas d'un trait de plume, parce qu'il y a un énorme travail, mais sous toutes ces lois, rayé ça. C'est-à-dire c'était un rééquilibrage du rapport de classe en faveur de la dignité du monde du travail. Non, c'est ça qui est très important. Alors, quand il voit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il voit que ça va. Il voit arriver l'éviction. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Parce que ce n'est pas un homme à abandonner la bataille.
Donc, il va continuer à être député. Il va continuer à être... Parce que, tu sais, parallèlement à cette tâche de parlementaire, il a été constamment le secrétaire national de la fédération CGT des métaux.
Des métaux.
Donc, il cumulait les deux. C'est-à-dire qu'il était à la fois la CGT comme... secrétaire national et en même temps député et puis ministre, tu vois.
Ministre.
Alors, on peut dire, certains disent, ouais, mais alors, il y avait multiplication des fonctions, mais ça lui permettait aussi de voir comment les gens travaillaient, parce qu'ils étaient en proximité avec les...
Bien sûr.
Et très vite, il va donc se retrouver député à l'Assemblée nationale, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que la maladie va arriver. Alors, on va le voir lutter, par exemple, contre ce qui est les tout débuts de l'Europe, tu sais, ce qu'on appelait la CECA.
La CECA, Communauté Européenne Charbon-Acier, voilà.
Charbon de l'acier. Il va se battre contre la guerre d'Indochine, tu vois, qui commence. Et puis très rapidement, il va être malade, quoi. Hein.
Voilà.
Et il disparaît en 51. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en octobre 50,
oui.
Il est atteint d'une maladie grave, il a un cancer.
Cancer du poumon, je crois, c'est ça.
Voilà. Oui, il le sait. Et en octobre, le 24 octobre 50, il prend la parole à l'Assemblée nationale,
oui.
Et c'est son dernier discours. Et le dernier discours, il le termine ainsi. « Jamais nous ne laisserons renier un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons cette loi à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès. » Et là, il va mourir deux ou trois mois après.
Oui.
Moi, je me dis que ce cri-là, il faut absolument qu'on le reprenne pour faire que
la sécurité
sociale ne soit pas une coquille vide livrée au privé, mais qu'elle soit ce que tous ces hommes de la libération ont voulu qu'elle soit, c'est-à-dire un vrai lieu de solidarité, un rempart contre la souffrance, l'exclusion et le rejet, quoi.
Tout à fait. Non, exemple remarquable. Oui. Heureusement, j'allais dire, heureusement, les autres ministres ne sont pas morts si vieux, mais le rapport de force internationale en particulier ne leur a pas permis d'avancer.
Ouais.
Ils ont été, à partir de 1947, ils sont toujours sur la défensive.
Constamment, oui.
Voilà. Et ils seront en plus, un peu comme ils l'ont été avec Blum, toujours marginalisés ils seront à souffrir. Parce que je repensais, quand on parlait, je crois que c'est pas tout à fait par hasard, que Mitterrand, en 80, lui aussi prend quatre ministres communistes.
Oui, oui.
Mais, alors, c'est pour l'anecdote, mais c'est bien de s'en rappeler. Quand il annonce qu'il aura quatre ministres communistes dans son gouvernement, il est convoqué par l'ambassadeur des États-Unis à Paris.
Oui, oui.
Qui lui demande des explications.
Oui.
Et il lui dit, mais n'ayez pas d'inquiétude, ils n'ont que des ministères techniques.
Hein, oui,
la formation professionnelle pour Rigou, la culture pour Rallye, etc. Il n'y a aucun danger sur une rupture d'alliance, sur une évolution dans un sens socialiste. Comptez sur moi. Et Mitterrand, et puis ses successeurs, et François II, parce que c'est comme ça que j'appelle l'actuel monarque républicain, est tout à fait dans la même ligne.
Exactement.
Alors pour la reconnaître, oui, dernière chose quand même, la mort de Croizat est un choc qui se manifeste dans les funérailles de Croizat qu'il faut raconter.
Donc il meurt le 10 février 51 et très rapidement c'est un coup vraiment terrible. Moi je regarde les journaux de l'époque, c'est absolument, tout est barré de noir, il y a des minutes de silence à l'Assemblée nationale. Et il y a un immense enterrement donc qui a lieu le 18 février, c'est-à-dire 8 jours après son décès.
Voilà, ça fait 63 ans aujourd'hui, cette semaine. Oui.
Ils traversent tout Paris, ils vont de la Maison des Métallos jusqu'au Père Lachaise. Ouais. Et là, il y a 1 million de personnes. Et moi, j'ai eu la chance d'entendre des témoignages de gens qui sont allés, tu vois, il n'y a pas très longtemps, et qui me racontaient que, et ça s'est passé un samedi, ils avaient dû attendre le dimanche pour pouvoir accéder à la tombe, quoi, tellement le monde était là.
Un million de personnes.
Énorme. C'est un des plus grands enterrements du siècle. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette foule, il y a tous ceux qui bénéficiaient, c'était tellement énorme, de la sécu, il y a une quantité incroyable de malades, de handicapés, de vieux, tu vois, qui d'un seul coup avaient leur retraite. On ne se rend pas compte non plus, mais tu vois.
Et dont la vie était transformée complètement. Oui.
Complètement. Un ancien me disait, moi, tu vois, la retraite de Croizat, ça m'a doublé la vie. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein.
Bien sûr.
Ça lui a permis d'aller bien plus loin, parce qu'autrement, il aurait fait quoi? Il aurait vécu d'autoconsommation, charité, tu vois.
Et
ça a été absolument colossal, quoi. Ça. Et il y a une chose qu'on a oubliée, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de quand a commencé la grande rupture et quand le patronat s'est redressé. bien sûr, avec la guerre froide, le plan américain Marshall, mais surtout aussi avec la division ouvrière.
C'est-à-dire
la naissance, la fracture entre, dans la CGT et la naissance de FO, qui était inspirée par la CIA, tout ça, ça on le...
Bien sûr, oui, ça s'est établi, oui, y a pas... oui, puisque Marseille a été particulièrement visée, que c'était une des bases du démarrage de force ouvrière. Et ça reste, hélas, une des bases de force ouvrière au niveau de la commune de Marseille.
Alors après, ils ont joué le rôle du syndicat minoritaire qui faisait basculer toutes les décisions du côté patronal. Quoi.
Voilà. Et en particulier donc, dans les caisses de sécurité sociale où systématiquement, ils pouvaient voter avec le patronat. Ouais.
Mais puisque vous êtes de Marseille,
il y a
une proximité très forte entre Croizat et Marseille, parce que je le retrouve sans arrêt à Marseille. Hein. Depuis les jeunesses communistes, quand ils allaient sur le port pousser les soldats à la désertion, jusqu'à 1927, quand il devient militant ambulant et que là, il est constamment en train de susciter des grèves. Après, on le retrouve en 36, il va y retourner pour le Front Populaire.
Oui.
Il va y être au Fort Saint-Nicolas prisonnier, là.
Oui.
Il va s'y retrouver à la Libération. C'est de là qu'il va débarquer, tu sais, et qui va faire son premier grand meeting de la Libération à Marseille.
C'est à Marseille.
Et puis, il retournera également en 46, en 47, moi je connais des anciens qui l'ont vu là-bas plusieurs fois, toi, notamment un copain d'Aubagne, qui était tout content de l'avoir revu à Marseille. C'était une ville pour lui importante, quoi, ouvrière, phare, dans tout son...
Voilà, ce qu'elle était, à telle enseigne qu'effectivement François Billoux a très longtemps été député des quartiers de l'Estaque, justement,
élu
très longtemps, dès le premier tour. Donc ça avait beaucoup marqué l'histoire sociale marseillaise.
C'est vraiment un compagnon de route. Tu vois, il y a trois personnes qui étaient constamment, quatre qui étaient constamment ensemble. Il y avait Croizat, Marcel Paul, François Billoux et Prosper Mocquet. Le père de Guy. Et ce père de Guy, ça a été quelque chose d'absolument terrible, parce que tu sais qu'il est...
Tu le racontes, vas-y.
Ouais, il est avec Croizat dans les camions cellulaires qui descendent vers le sud, puis il va être embarqué, et ils vont aller tous les deux, donc, avec les autres, au bagne
d'Alger.
Et c'est lui, Ambroise, qui va être chargé par la femme de Prosper Mocquet, Juliette Mocquet.
D'annoncer la nouvelle.
Voilà, d'annoncer la nouvelle de la mort.
Oh là là.
C'est terrible, hein, ça, ouais.
Voilà.
D'autant plus qu'il va encore perdre après...
Un deuxième fils.
Père, Serge.
Ouais.
Et c'était absolument fou.
Ah oui, bouleversant. Alors là, on a un peu, j'allais dire, disons le mot, un peu la nausée quand on voit que certains présidents de la République s'est permis d'aller souiller ce souvenir.
Ah oui, ça c'est terrible. S'en emparer, tu vois.
Très, très douloureux et très abject.
Alors, moi, souvent, quand je parle avec Liliane Croizat, donc la fille d'Ambroise, elle me parle de leur visite très dure, tu vois, à la prison de la santé. Donc, elle est née en 36, Liliane.
Oui, oui.
Et en 40-41, ils sont à la prison de la santé.
Oui, oui.
Et donc, ils vont visiter, elle va visiter avec sa mère, le père Croizat. Et avec eux, eh ben, il y a le petit Guy Mocquet, tu vois.
Et voilà.
Il va visiter le père et elle disait il les voyait à peine, tu sais, ils sont derrière des grillages.
Oui, oui.
Après, il y a un couloir où passaient des gardes-chourmes. Puis de l'autre côté, encore des grillages, les députés derrière, tu vois, c'était absolument. Ouais.
Oui, c'était un parloir très distant, oui. C'est pas... Ils étaient comme des pestiférés.
Oui, oui, exactement. Ouais. Oui.
Bon, on a quand même, alors il y a des satisfactions, puisque tu nous faisais circuler tout à l'heure un communiqué de la mairie, donc voilà, on commence quand même à pouvoir parler de ce grand personnage sans le nier. Alors raconte-nous, lis-nous le communiqué, le texte concernant
juste
la mairie.
Je veux dire que tout ce travail, si tu veux, sur le livre, plus tout celui des militants de la CGT a fait que. Aujourd'hui, Croizat, il est arrivé à être connu pour des tas de raisons. D'abord, on s'est battu pendant des années pour le faire rentrer dans le dictionnaire. C'est pas évident, hein.
C'est incroyable. Incroyable.
Tu pouvais ouvrir un dictionnaire avant 2012, tu trouvais dedans Rick Azaray, Johnny Hallyday,
bien sûr.
Mais pas en Croizat. Bon, il est rentré. Ensuite, moi, je suis arrivé à le faire entrer dans tous les livres scolaires, donc de terminale, tu
Très
vois,
bien.
Par ce travail. Ensuite, beaucoup de gens, depuis 4-5 ans, font tout un travail d'inauguration, tu vois, de lycée croisade, de collège croisade, de foyer croisade, de place croisade. Là, on a inauguré une à Paris, tu vois, récemment. Et puis là, à l'Aléchère, là où il est né, parce qu'il est né à Notre-Dame-de-Briançon, qui est un hameau de l'Aléchère, on avait déjà mis une stèle très importante, tu vois, consacrée à l'homme, puisqu'il est né là en 1901. Hein, et grâce à la mairie de l'Aléchère, maintenant, on va pouvoir mettre une espèce de grand panneau sur la grande route. Tu sais, l'Aléchère, c'est une ville qui se situe en Tarentaise, au cœur de toutes les grandes stations de sport d'hiver. Au bord de la route de ces grandes stations, en passant par cette route, on va à Courchevel, Méribel, Les Arcs, La Plagne. Et là, on va installer un grand panneau disant que Ambroise Croizat, bâtisseur de la sécurité sociale, ministre communiste à la Libération, est né ici, quoi. Donc une pancarte qui va être vue par 38 000 voitures qui montent, 38 000 qui descendent.
Voilà.
Et ça, tous les week-ends de février, toi, c'est absolument...
Voilà. Et qui ne sont pas remplis, a priori, d'OS et de caissières de supermarchés.
Alors, ceux qui viennent là, c'est pas vraiment des caissières, hein, c'est vraiment des riches, très riches.
Ben, on dit aujourd'hui la Courchevel et ça, et Val-d'Isère sont les stations les plus chères de France, de très loin. Donc, effectivement, ces gens-là, bien qu'ils puissent dépenser des sommes considérables, des 500 euros la nuit à l'hôtel, bénéficient aussi de la sécurité sociale.
Voilà, exactement.
Ça, il
et
faut
quand
jamais.
500 euros, il faudrait peut-être multiplier par.
Peut-être plus cher, je ne suis pas. Oui, c'est vrai que je fréquente pas ces lieux.
J'habite à Moutier.
Dis-moi, oui.
Moutier, on est au cœur des stations.
Oui.
Donc, c'est tout un travail pour des journaux, l'Humanité, tout ça. Quand je vois l'argent qui se dépense, c'est plus pensable. Hein. C'est 10 000 euros la nuit.
C'est effrayant. Ah oui, effrayant.
Courchevel, c'est absolument. C'est le must total, quoi.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est toute la mafia russe qui est là. Hein.
Voilà.
Il y a un argent considérable. Ça, c'est... Voilà. Et parallèlement à ça, tu as tout un tas de jeunes saisonniers
qui
travaillent là-dedans, qui sont exploités, qui ont des conditions de travail abominables, tu vois, qui vivent parfois dans des chaufferies d'hôtels. Moi, j'en connais plein qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer des logements.
Oui, tout à fait.
Comment tu veux payer un logement en Courchevel?
C'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, le rapport de classe là, apparaît dans la brutalité de son état actuel.
Il y en a qui signent des contrats sur lesquels ils s'engagent à ne pas être malades. Je sais pas si tu vois.
Ah là là.
Je ne serai pas malade, je ne ferai pas grève. Voilà.
Voilà, c'est ça. Non, des contrats qui sont carrément illégaux.
Ma femme est conseillère prud'homale à la CGT.
Ouais.
Eux, on voit des choses abominables. Quoi. Abominables.
Ouais, t'en pas. Voilà, donc tout ça nous invite à poursuivre ou à reprendre le chemin de la lutte pour sauver tout le travail d'Ambroise Croizat et de ses amis.
Oui.
Voilà, je vais te remercier beaucoup. Je vais d'abord dire, voilà, le livre que tu viens de publier, qui s'appelle donc Ambroise Croizat ou l'invention sociale, suivi de Lettres de prison 1939-1941. Donc, pour se le procurer, je lis donc ce qui est à la dernière page, chez toi, donc on peut t'écrire.
Voilà.
Alors, Michel Etiévent, E-T-I et accent aigu, V-E-N-T, 520 Avenue des Termes, 73 600 Salins, les Termes, puisqu'en fait, l'Aléchère, toute cette vallée est constellée de stations thermales.
Oui.
Voilà. Et il y a, je ne sais pas si tu veux que je donne le téléphone ou bien...
Oui, parce que c'est peut-être le plus simple encore.
Voilà, alors, le téléphone, c'est 04 79 22 54 69.
Voilà, puis le livre, les gens reçoivent le livre directement.
Voilà, puisque donc ça permet aussi d'avoir pour un prix raisonnable un très très bel ouvrage qui est très très riche, puis c'est 50 ans d'histoire sociale de la France, ce type d'ouvrage qu'on voit très très peu, même chez les éditeurs considérés comme progressistes.
Oui, donc, on a été beaucoup aidé, j'ai été beaucoup aidé par France Inter, l'émission de Mermet, tu sais, l'après-midi.
Voilà, oui.
Bon, ça, il y a eu trois émissions sur le livre et sur le parcours de Croizat qui ont fait, comme ta radio, qui ont permis, si tu veux, de faire connaître à un grand nombre de gens ce travail. Quoi.
Voilà, Eh bien, souhaitons. Alors, il faut continuer ce travail. On y a contribué très modestement ce soir. Toi, beaucoup, par tout le travail. Bon, là, il y a un problème. Alors, dernière question d'un peu d'historien que je ne suis pas, mais travail d'archives. Les archives sont difficiles. Il n'y a pas grand-chose.
Non. C'était particulièrement difficile de travailler sur le personnage parce que d'abord, personne n'avait travaillé dessus déjà.
D'accord.
Donc, on n'avait pas de livre de première main. Ça. Donc, moi, je suis allé vers toutes les directions qu'emprunte un historien. D'abord, vers les archives. Donc, les archives locales, c'est-à-dire la Savoie, puisqu'il était né ici.
Bien sûr.
Il y avait tous les rapports de grève du père. Puis après, les archives de Lyon, départementales. Puis après, toutes les archives nationales et bien sûr, toutes les archives des syndicales, quoi.
Bien sûr.
Syndical, dans tous les lieux où il avait pu passer.
D'accord.
Et à partir de là, j'ai pu retrouver plein de choses. Mais j'ai retrouvé aussi beaucoup de choses, énormément de choses, grâce à la famille, tu vois, qui avait conservé plein de choses, notamment toutes ces fameuses lettres de...
Lettres de prison.
Tous les rapports, tous les discours qu'il a fait, tu vois. Ça a permis, ça, alors, ça m'a aidé beaucoup, quoi. Mais c'était un travail assez colossal, hein, parce que on partait de rien, quoi. C'était vraiment...
Et que j'imagine, l'université n'encourage pas les jeunes historiens à faire ce type de travail.
Ouais.
Voilà. Donc, tu as fait ça en plus de ton travail de professeur.
Voilà. Je le dis souvent, sur 100 mémoires de master, on appelle aujourd'hui...
Oui, comme on dit.
De fac, sur 100 mémoires, je suis allé dernièrement à la fac, parce que j'y travaille, et je regardais les 100 derniers mémoires produits. Sur les 100 derniers mémoires produits, il y en a 3 seulement, 3 sur 100, qui concernent l'histoire sociale. Il n'y a pas beaucoup d'encouragement à travailler dans ce domaine. Les archives sont vierges
pour vous. Ça, signe des temps. Bon. Souhaitons que ton exemple soit suivi par d'autres, parce qu'il y a sûrement encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Merci beaucoup, Michel Etiévan. Voilà, on recommande donc de lire cet ouvrage et de le commander chez toi pour la somme de, je ne sais pas,
25 euros.
De port, donc, un livre abondamment illustré qui, chez un éditeur commercial et capitaliste, vaudrait certainement plus cher. Voilà.
Ouais.
Grand merci.
Bonjour à Marseille, parce que je...
Voilà, et puis tu seras le bienvenu à cette antenne dès que tu auras l'occasion de venir pour que nous parlions encore de ce sujet passionnant.
J'y vais assez souvent parce que j'adore la ville.
Voilà.
C'est une des seules villes encore, pas trop pourrie par le tourisme, encore, malgré.
Malgré.
Voilà.
Nous t'y attendons. Merci et à très bientôt.
Au revoir. À bientôt.
Voilà, merci Sidi. Alors, j'avais envie, pour rester dans le ton, de ne pas mettre le générique habituel, mais de mettre la petite chanson qui est sur la clé. Tu la vois. Voilà, alors ça, vous écoutiez, je reprends le micro, vous écoutiez l'enregistrement intégral tel qu'il a été fait donc en 2014. Donc, il n'y a pas de petite musique sur la clé. Simplement, je voulais vous dire que je ne sais pas, parce que je n'ai pas recontacté la famille après le décès, donc inattendu. Apparemment, il était en très bonne santé, il faisait des conférences, il continuait son combat comme il l'avait toujours fait. Et je ne sais pas encore s'il aura possibilité d'accéder au livre. Mais je ferai le nécessaire pour que ça se sache, quitte à en reparler sur cette antenne. En tout cas, je retiens ce message de ce lutteur à sa façon, cet historien du mouvement social et du mouvement ouvrier qu'a été Michel Etiévan. Il y a toujours une possibilité de réveil du mouvement social quand la société, dans ses profondeurs, a trop souffert. C'est sur cette idée-là que je voudrais vous inviter à réfléchir et peut-être à vous préparer à des batailles absolument indispensables quand on se trouve face à l'espèce de nuage triste qui nous sert d'horizon face à une présidentielle morose, triste. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que nous nous réveillions. Il faut que l'exemple de Croizat, l'exemple de Michel Etiévan qui a remis Croizat dans la mémoire nationale, nous serve de déclic pour aller vers, comme on le dit dans le titre d'un film auquel Michel Etiévan a participé, aller vers de nouveaux jours heureux. C'est ce que je nous souhaite et ce que je vous souhaite en vous souhaitant maintenant bonne soirée, bonne écoute. Cette émission sera podcastée sur le site de Radio Galère dès que ce sera possible, hein, je pense très très vite.
Et sûrement rediffusé samedi à 14h.
Merci encore. Voilà, donc rediffusion. Donc pour ceux d'entre vous qui peuvent dire à des amis cette émission a été intéressante, je l'espère, dites-leur qu'elle sera rediffusée donc samedi et que par ailleurs, elle sera sur les podcasts de Radio Galère. Merci encore de votre attention et merci de participer avec nous à cette nécessité vécue et en même temps triste parce que Michel est décédé le mois dernier, nécessité de la poursuite de la lutte pour des jours meilleurs. Merci Sidi, bonne soirée à tous.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.